le 6 mars 1963. Au début de cette conversation, il est question d'un ancien entretien de 1957 où Mère disait ceci. Pouvons-nous espérer que ce corps, qui est maintenant notre moyen de manifestation terrestre, ait la possibilité de se transformer progressivement en quelque chose qui pourra exprimer une vie supérieure? Ou est-ce qu'il faudra abandonner cette forme totalement pour entrer dans une autre qui n'existe pas encore sur la Terre?
Oui, mais est-ce que c'est l'une qui se transformera en l'autre?
Hein?
Est-ce que c'est l'une qui se transformera en l'autre?
L'une se transformera? Et sera comme une... ébauche de l'autre. Et l'autre parfaite apparaîtra quand celle-ci sera en existence. Parce que les deux choses ont leur beauté et leur raison d'être, par conséquent, elles sont là toutes les deux. Le mental essaie toujours de choisir, de décider. Même tout ce que nous pouvons imaginer est beaucoup moins que ce qui sera. À dire vrai, chacun qui a une aspiration intense et une certitude intérieure sera appelé à la réaliser. Partout, dans tous les domaines, et toujours et éternellement, tout sera possible. Et tout ce qui est possible, tout sera à un moment donné. Un moment donné plus ou moins prolongé, mais tout sera. De même qu'on a trouvé toutes sortes de choses, n'est-ce pas, entre les animaux et l'homme, qui ne sont pas restés. De même, il y aura toutes sortes de possibilités. Chacun essaiera à sa manière. Et tout ça ensemble aidera à préparer la réalisation. La question qu'on pourrait demander, est-ce que l'espèce humaine sera comme certaines espèces qui ont disparu de la Terre? Il y a certaines espèces qui ont disparu de la Terre. Mais pas des espèces qui ont duré aussi longtemps que l'espèce humaine. Et justement, pas les espèces qu'il y avait en elles, c'est ce germe de progrès, cette possibilité. On a plutôt l'impression que ça suivra une courbe qui se rapprochera de plus en plus d'une espèce supérieure, et peut-être tout ce qui est encore trop près de les espèces inférieures tombera. Comme si ces espèces sont tombées. Comme ça. On oublie toujours que non seulement tout est possible, tout, même les choses les plus contradictoires, mais que tous les possibles ont au moins un moment d'existence.
Des aphorismes pour le prochain bulletin.
Alors maintenant, il ne reste plus que les aphorismes. Tu veux me lire les prochains aphorismes?
Le surnaturel est un naturel que nous n'avons pas encore atteint, ou que nous ne connaissons pas encore, ou dont nous n'avons pas encore conquis les moyens d'accès. Le goût du miracle, si répandu, est le signe que l'ascension de l'homme n'est pas encore terminée. Alors un autre qui va avec. Il est rationnel et prudent de se méfier du surnaturel, mais y croire aussi est une sorte de sagesse.
Ça, c'est un autre.
Et encore un qui, du même type. De grands saints ont accompli des miracles. De plus grands saints les ont raillés. Les plus grands d'entre eux les ont à la fois raillés et accomplis. Et alors peut-être un dernier qui irait avec. Ouvre les yeux et vois ce qu'est réellement le monde et ce qu'est Dieu. Débarrasse-toi des imaginations vaines et plaisantes.
Et alors, tu as des questions?
Oui, il y a deux sortes de questions.
Il y a deux choses. Hein.
D'abord, évidemment, on peut demander ce que c'est qu'un miracle.
Ça fait une définition.
Mais souvent, Sri Aurobindo a dit qu'il n'y a pas de miracle. Et puis en même temps, dans Savitri, par exemple, il y a un endroit où il dit « Tout est miracle ici-bas. » Et par miracle peut changer.
Ça dépend comment on regarde comme ça. Oui, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps, on a vu quelque part quelque chose. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ou si on dit tout, je ne sais pas. On dit que le miracle est seulement, on appelle miracle seulement quelque chose qu'on ne peut pas, dont l'explication n'est pas claire, dont on n'a pas l'explication, une explication mentale. Et alors, à ce point de vue-là, si c'est comme ça, il y a une quantité innombrable de choses qui arrivent et qui sont des miracles parce qu'on ne peut pas expliquer comment ni pourquoi.
Qu'est-ce qui est un vrai miracle?
Qu'est-ce que c'est qu'un vrai miracle?
Qu'est-ce que ce serait un vrai miracle?
Je vois pas ce qui peut être un vrai miracle. Parce que, qu'est-ce que c'est que miracle alors? Un vrai miracle? Ce n'est que le mental qui a la notion du miracle. Parce que le mental décide avec sa logique propre, qu'étant donné ceci et cela, telle autre chose peut ou ne peut pas être. Mais ça, c'est toute la limitation mentale. Parce que du Seigneur, comment peut-il y avoir un miracle? Tout est lui-même qui l'objective. Alors, nous entrons dans le grand problème de la route qui est suivie de cette route éternelle. Et que expliquer comme l'explique Shiobindo dans sa vitrine. Naturellement, on conçoit que ce qui s'est objectivé en premier et ce qui avait le goût de l'objectivation. La première chose à admettre qui paraît logique avec le principe de l'évolution, c'est que c'est une objectivation progressive qui n'est pas totale éternellement. Très difficile à dire, parce que nous ne pouvons pas sortir de notre habitude d'avoir une quantité définie qui se déroule indéfiniment, mais qui... Ce n'est qu'avec une quantité définie qu'il peut y avoir un commencement. Nous avons toujours, au moins dans notre façon de parler, un moment où le Seigneur décide de s'objectiver. Et alors, ce serait, comme ça, c'est très facile, c'est, il s'objective graduellement et progressivement, ce qui donne l'évolution progressive. Ça, c'est seulement une façon de dire. Parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, et pourtant, il y a une progression. Le sens de la succession, le sens de l'évolution, le sens du progrès n'existe qu'avec la manifestation. C'est pourquoi c'est seulement si on parle de la terre qu'alors on peut expliquer très véridiquement et rationnel. Parce que la Terre a un commencement. Pas dans son âme, mais dans sa réalité matérielle. Probablement aussi un univers matériel un commencement. Et au fond, si on regarde comme ça, un miracle serait pour un univers l'intrusion soudaine de quelque chose venant d'un autre univers. Et pour la Terre, alors qu'il réduit le problème à quelque chose de très compréhensible, un miracle est l'intrusion subite de quelque chose qui n'appartenait pas à la Terre. Ça fait un changement radical et immédiat. Par l'entrée d'un principe qui n'appartenait pas à ce monde fini. Mais là encore, il est dit au centre même de chaque élément, tout est en principe. Alors même ce miracle-là n'est pas possible. Qui fait qu'on en vient à dire que le sens du miracle n'appartient qu'à un monde fini, qu'à une conscience finie, qu'à une conception finie. C'est l'entrée, l'intrusion, l'intervention, la pénétration subite, sans préparation, de quelque chose qui n'existait pas dans ce monde fini. Alors, évidemment, manifestation d'une volonté ou d'une conscience qui appartient à un domaine plus infini et plus éternel que la Terre est nécessairement un miracle sur la Terre. Si on sort du monde fini et de la compréhension Seigneur peut jouer au miracle si ça l'amuse, mais il n'y a pas de miracle. Il joue à tous les jeux possibles. Et là, il n'y a pas de place pour le miracle, à moins d'avoir l'air d'être un miracle. Si on prend l'homme comme l'être mental, même dans la perfection de sa mentalité, de son domaine mental, ce qui appartient au monde supramental, si au lieu d'être une lente évolution est une apparition subite, cela, l'on peut l'appeler miracle. Parce que c'est l'intervention de quelque chose qu'il ne porte pas consciemment en lui-même et qui intervient dans sa vie consciente. Et en fait, si on regarde ce mot chez les enfants ou chez les cœurs qui sont restés enfants que chez les êtres très mentalisés. Réalisation de l'aspiration vers le merveilleux. Ce qui est supérieur à tout ce que l'on peut espérer. La vie normale. On devrait toujours l'éducation encourager les deux tendances d'une façon parallèle. À avoir soif du merveilleux, de ce qui paraît irréalisable, de quelque chose qui vous remplit d'un sentiment de divinité, tout en encourageant en même temps dans la perception du monde tel qu'il est, observation exacte, correcte, sincère, l'abolition de toute imagination, le contrôle constant, le sens le plus pratique et le plus minutieux dans l'exact. Faudrait que les deux marchent parallèlement. Généralement, on tue l'un avec l'idée que c'est nécessaire pour faire croître l'autre. C'est tout à fait une erreur. Les deux peuvent être simultanés. Et il y a un moment où la connaissance est suffisante pour savoir que ce sont deux aspects d'une même chose qui est la clairvoyance. Mais au lieu d'être une clairvoyance d'un discernement supérieur, au lieu d'être une clairvoyance et un discernement limité, il devient tout à fait sincère, correct, exact, mais il est immense et il inclut tout un domaine qui n'appartient pas encore à la manifestation. Point de vue éducatif, ce serait très important. Voir le monde tel qu'il est exactement de la façon la plus terre-à-terre et concrète. Et voir le monde tel qu'il peut être avec la vision la plus libre, la plus haute, pleine d'espoir et d'aspiration et d'une certitude merveilleuse. Comme les deux causes du discernement. Tout ce que nous pouvons imaginer de plus splendide, de plus merveilleux, de notion de ce que cela peut être. Et en même temps, notre exactitude minutieuse du détail le plus minime n'est jamais suffisamment exacte. Mais les deux doivent aller ensemble. C'est quand on sait ça et qu'on connaît ça que l'on est capable de mettre les deux ensemble. Et ça, c'est besoin du miracle. Le besoin du miracle, c'est un geste d'ignorance. Oh, je voudrais que cela soit ainsi. C'est un geste d'ignorance et d'impuissance. Et alors, ceux qui disent vous vivez dans le miracle, ce sont ceux qui ne connaissent que ça. Et encore qu'ils ne le connaissent qu'imperfectement et qui n'ont aucun contact avec autre chose. Il faut changer ce besoin du miracle en une aspiration vers quelque chose qui est déjà, qui existe et qui sera manifesté avec l'aide de toutes ces aspirations. Toutes ces aspirations sont nécessaires. Si on le regarde d'une façon plus vraie, sont un accompagnement agréable dans le déroulement des choses. Les gens d'une logique très sévère vous disent pourquoi prier, pourquoi aspirer, pourquoi demander. Le Seigneur fait ce qu'il veut et il fera ce qu'il veut. Mais c'est de toute évidence, il n'y a pas besoin de dire. Mais Seigneur, manifeste-toi. Ça donne une vibration plus intense à sa manifestation. Autrement, il n'aurait jamais fait le monde comme il est. Il y a une puissance spéciale, une joie spéciale, une intensité spéciale dans cette intensité d'aspiration du monde pour redevenir ce qu'il est. là. En partie, fragmentairement, il y a une évolution. Un univers éternellement parfait, manifestant éternellement l'éternelle perfection, manquerait de la joie du progrès. Ça, c'est une chose que je sens très intensément. Parce que nous voyons pas plus loin que le bout de notre nez et n'est-ce pas, même pas une seconde de l'infini, et que ça, cette seconde ne comptera pas tout ce que nous voulons sentir ni savoir. Nous nous plaignons et disons, oh non, ce monde n'est pas bien. Mais si nous sortons de notre seconde et que nous entrons dans le tout, d'une façon si intense tout ce que ce besoin de progrès a apporté à la manifestation. Et encore, n'est-ce pas, c'est encore limité à l'instrument qui reçoit. Il y a un moment où même la force créatrice de cet univers-ci se sent tout d'un coup toute petite, si elle ne se fond pas, ne s'unit pas avec la force créatrice de tous les autres univers. Là aussi, une ascension ou une progression constante dans l'identification. Tu veux pas raconter tout ça?
Mais j'ai pas pensé.
Non, tu coupes là où c'est. Toute la fin.
Maintenant, on n'a plus le temps. Autrement, peut-être que je t'aurais posé une question. Il est un peu tard maintenant, mais...
Ça prend 5 minutes. Quelle question?
On pourrait demander, par exemple, pourquoi Sri Aurobindo ou toi n'avez pas utilisé davantage le miracle comme un moyen de vaincre les résistances dans les consciences humaines extérieures? Pourquoi cette espèce d'effacement vis-à-vis de l'extérieur, de non-intervention, si on peut dire, ou de discrétion?
Je sais seulement ce qu'il m'a dit plusieurs fois. Les gens n'appellent miracle que des interventions dans le monde matériel ou dans le monde vital. Et ces interventions sont toujours mélangées à des mouvements d'ignorance ou d'arbitraire. Le nombre de miracles dans le mental que Sri Aurobindo a fait est incalculable. Mais naturellement, c'était seulement si on avait une vision très droite, très sincère, très pur qu'on pouvait le voir. Moi, je le voyais. Il y en a d'autres qui l'ont vu. Mais il se refusait, ça je le sais, il se refusait à faire aucun miracle vital et matériel à cause de ça. Mon expérience est celle-là. C'est que dans l'état où le monde est maintenant, un miracle direct matériel ou vital doit tenir nécessairement compte d'une quantité d'éléments mensongers que l'on ne peut pas admettre. Ce doit être des miracles mensongers. Ça ne peut pas être admis. Pour moi, je suis toujours refusé. J'ai vu, n'est-ce pas, ce que les gens appellent des miracles, j'en ai vu, pour Madame Thion, par exemple. Mais ça admettait un tas de choses comme ayant le droit d'être, qui pour moi sont inadmissibles. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si simplement c'était parce que ça ne devait pas être. C'est tout. Pour moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais... En tout cas, je te les dirai peut-être un jour, mais ça n'est pas... Ça ne peut pas servir pour le but. Ce n'est pas des choses publiques. Mais ça, ce que j'ai dit, ce que les hommes appellent maintenant miracle, c'est presque toujours fait par des êtres du vital ou des hommes qui sont en rapport avec des êtres du vital. Et c'est mélangé, ça admet la réalité de certaines choses, la vérité de certaines choses qui ne sont pas vraies. Et c'est sur cette base que ça... Non, ça c'est inacceptable. Un autre jour peut-être. Mais ce que j'aurais à te dire personnellement, ce sera bon pour la Valanda, pas du tout bon pour.